Bonsoir fidèles auditeurs, merci de nous recevoir en direct pour l'édition de 17h au micro de Suruke Top Draman. À la une, pour le moment, les étudiants nigériens en France ne sont interdits de quitter ou séjour et ne sont sommés de quitter. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du Conseil nigérien de France, CONIF, par la voix de son vice-président. Les leaders religieux de Maradi et Zender sont à Zender pour parler de traditions néfastes à l'égard des femmes et filles. En partie magazine, la création de l'Alliance des États sahéliens analysée par le journaliste spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, Sedi Kaba. Nous sommes mercredi 20 septembre 2023, Monsieur Dame, le journal. Les forces de défense et de sécurité du Niger engagées contre les groupes armés et criminels organisés ont cette semaine démantelé et mis hors d'état de nuire ces groupes avec la découverte et la destruction des explosifs à Pétalcoli selon le bulletin des opérations de l'armée. D'autres opérations, notamment celles de Maradi et de Difa, ont également permis respectivement la poursuite et la récupération d'importants bétails volés et le rapatriement des familles de Boko Haram à la frontière Nigeria. Depuis le coup d'État survenu au Niger le 26 juillet, plusieurs pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, ont fermé leurs frontières avec le Niger. À Gaya, ce sont les pirogues qui assurent la navette entre les deux pays afin de mieux sécuriser les personnes et leurs biens. Les forces de défense et de sécurité ont installé un poste de contrôle au bord du fleuve Niger à Gaya. Mustapha Maïchanou, de la coordination de la douane à Gaya, explique au micro de notre envoyé spécial Habib Garba.
Oui, conformément à la mission des FDS, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens, nous sommes là en train de contrôler tous ceux qui viennent. Après, si les effets ne sont pas susceptibles d'être dédouanés, on laisse les gens partir avec leurs effets. Et si les effets sont susceptibles d'établir des amendes ou bien des quittances, nous avons tout à notre possession. La police, la gendarmerie aussi sont là, aussi en train de contrôler les personnes. S'il y a des effets qui ne sont pas bons, ils les saisissent, on les amène à qui de droit. Nous travaillons dans la parfaite symbiose. Ils collaborent. En tout cas, ici, il n'y a aucun problème. Le travail là part dans le bon sens. Tout ce que nous souhaitons, c'est encore plus. On appelle à la population d'être plus collaboratrice pour nous permettre et d'alléger le travail.
Dans un courrier publié cette semaine par la CFDT, section de l'AFD en France, la Confédération syndicale se dit attristée de voir les messages de différents ministères appelant à débusquer les étudiants artistes chercheurs des trois pays sahéliens, Mali, Burkina et le Niger, afin de cesser toute interaction avec eux. Une situation que déplore également le Conseil nigérien de France, CONIF. Aboubakar Lalo, vice-président du CONIF, joint au téléphone par Abia Mekano.
Je pense que c'est une erreur politique, justement, que la France ne puisse pas ouvrir une exception culturelle, justement, pour permettre à ces artistes-là, à ces étudiants, à ces chercheurs, d'aller chercher le visa même au Bénin ou au Togo. Voilà. Sinon, il faut aussi rappeler une chose, c'est que tous les artistes qui ont déjà des visas en cours de validité, ils sont admis en France. Il ne faut pas se dire qu'il y a une chasse à l'homme, on va essayer de débusquer tous les Nigériens qui habitent ici. Nous plaidons ici au sein du CONIF, dont je suis le vice-président, cette exception culturelle qui peut permettre à un artiste d'aller faire un nouveau visa donc dans des pays comme le Bénin, comme le Togo, etc. ou en Côte d'Ivoire.
Autre aspect de ce journal, des leaders religieux des régions de Zender et Maradi sont en atelier à Zender sur les traditions néfastes à l'égard des filles et des femmes. Cet atelier se tient dans le cadre du débat intergénérationnel et de plaidoyer intra-religieux. Il est organisé par l'Alliance des religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire. Dr Maman Tassiou, consultant de l'Alliance, est au micro de Ali Keita.
Le but de cette réunion, c'est d'échanger avec les communautés pour identifier certains problèmes que rencontre la population sur la vie des enfants, des femmes, la scolarisation de la jeune fille. Car jusqu'à ce jour, vous savez, il y a des personnes qui sont encore réticentes par rapport à l'éducation de la jeune fille. Il sera également discuté la question relative aux violences basées sur le genre. Donc, nous sommes en train de faire cette activité pour éclairer la population qui a d'ailleurs accepté l'organisation. Et dans la même lancée aussi, nous faisons un rappel de ce que dit notre religion par rapport aux thématiques que nous développons et surtout ce que notre religion a dit par rapport à ces thématiques dans certains passages du
Dans une interview accordée à nos confrères de RFI, la deuxième responsable des Nations Unies, Amina Mohamed, a fait savoir que seulement 15% des objectifs pour le développement durable ont été atteints sur les 17 au moment des travaux annuels de la session de l'ONU. Elle appelle les États à tenir leurs promesses. Pour le président Duranged, il est impératif pour les pays à faire des progrès en matière de développement d'ici 2030. Dambadji Ousmane au micro de Mama Ada.
Chaque action que vous menez concourt à un ORD. Mais les gens, quand on parle des ORD, ils pensent que c'est une nouvelle thématique, ils pensent que c'est une affaire des Nations Unies, ils ne sont pas concernés. Aujourd'hui, vous savez, c'est l'échec patent des OMD qui ont été mis en œuvre de 2000 à 2015, qui n'ont pas été, en tout cas, atteints. C'est après ça que les Nations Unies ont dit, écoutez, si de 2000 à 2015, on a mis OMD et que les États, on les a imposés, les choix stratégiques, c'était si l'objectif concerné de l'agenda international, aujourd'hui, il faut les impliquer eux-mêmes, demander à ce qu'ils participent à l'élaboration des actes. Et ils l'ont fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que les États ne puissent pas être au rendez-vous de 2030. D'abord, on a demandé aux États d'impliquer les médias, pas comme observateurs, en tant que partie prenante de la mise en œuvre de projets programmes, de même que la société civile, les États n'ont pas fait. On a demandé aux États de communiquer beaucoup pour que les populations puissent comprendre c'est quoi ODD, quel est le rôle de la mise en œuvre. Aucune action n'a été menée dans ce sens.
La direction de la protection des personnes âgées du ministère de la Santé organise à Maradi une formation sur le protocole de la prise en charge des personnes âgées au Niger. Ce sont les responsables des centres de santé intégrés qui sont formés pour qu'à leur tour, ils forment leur personnel médical pour une prise en charge adéquate de ces personnes de troisième âge, selon Madame Abdulwahab Hawa, directrice nationale des personnes âgées. Elle est au micro de Mohamed Mama.
C'est pour renforcer les capacités des agents de santé qui sont sur le terrain. Parce que la prise en charge des personnes âgées, c'est au niveau tertiaire seulement qu'on peut le sentir. Mais, par exemple, dans les communes, dans les départements, là où il y a les CSI, les formations sanitaires de base, là, on ne sent pas cette prise en charge parce qu'il n'y a pas de spécialiste pour la prise en charge des personnes âgées. Les spécialistes, c'est qui? Ce sont les gériatres. On n'a que deux gériatres au Niger. Un au niveau de l'hôpital de référence de Maradi, le second est au niveau de l'hôpital de référence du Niamey. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette formation des agents de santé, les cliniciens, les responsables des districts sanitaires, pour qu'à leur niveau, ils forment les autres agents de santé, pour qu'il y ait au moins les béaba de la prise en charge sanitaire et sociale d'une personne âgée.
Santé toujours, une épidémie de conjonctivite sévit en ce moment dans la commune de Tessawa, région de Maradi. Cette maladie serait liée au manque d'hygiène pendant cette période d'hivernage. Hamisou Gadiga, responsable du service ophtalmologie de l'hôpital de Tessawa, est au micro de Ilia Moumouni.
La conjonctivite que nous constatons maintenant, c'est une sorte d'épidémie, due certainement à la période pluviométrique, qui est à la base de la prolifération des insectes. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Ça se contamine par contact. Donc, une personne malade qui touche ses yeux, sans pour autant nettoyer ou laver ses mains, donne la main à une autre personne qui est bien portante. Donc, à travers les mouches et à travers aussi le contact par personne, donc à travers les mains, en tout cas, le risque de contamination est là. Donc, les conseils, c'est surtout le respect d'hygiène. L'hygiène du milieu, l'hygiène, en tout cas, corporel. Tout cas qui est contaminé, il doit se rendre d'abord au service de santé pour être consulté. Et maintenant, il y a des produits qui sont appropriés. Il n'est pas question que tu achètes les produits, arrivé à la maison, tu trouves ta femme malade ou ton enfant malade ou ton petit-fils malade, tu utilises les mêmes produits que lui. Non. Un produit en ophtalmo, si on l'ouvre, au bout de 15 jours, ce produit-là doit être mis de côté.
Plus de 20 enfants de moins de 14 ans issus des familles démunies sont enregistrés chaque mois par la direction de la protection de l'enfant de Dakoro pour leur éducation. Cela pour les faire sortir des griffes de la violence et autres maux selon la responsable de ce service, Bibata Kone, directrice de la protection de l'enfant de Dakoro, au micro de Adamu Umar.
En ce qui concerne les femmes, ça va. Elles ont reçu plusieurs formations dans divers domaines. Mais nous rencontrons surtout des difficultés en ce qui concerne les enfants. Il y a des cas d'enfants égarés ou ceux qui font des fugues. Par exemple, ceux qui suivent les éleveurs en brousse et finissent par fuir. Il y a des cas d'enfants victimes de violences. Nous sensibilisons beaucoup les femmes. Nous avons un comité spécialement mis en place pour la protection des droits de l'enfant. Un enfant, c'est tout celui qui a un décès de 18 ans. Donc, ces enfants ont besoin de protection pour qu'ils puissent assurer la relève de demain. Nous sensibilisons les parents aussi pour que les enfants puissent avoir une bonne éducation. Et aussi pour les filles qui font des petits commerces ambulants. Ce n'est pas interdit, mais elles doivent être surveillées, car elles peuvent être violées, par exemple, et c'est tout un tas de tracas qui va s'en suivre. Il y a tous ces problèmes-là dont les parents doivent en tenir compte. Quand un enfant est bien éduqué, quand il arrive à s'en sortir plus tard dans sa vie courante, les parents vont en bénéficier, et même au-delà, les autres membres de la communauté aussi peuvent en bénéficier.
Parlons sport à présent. Les éliminatoires de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024 débutent aujourd'hui à travers le continent. 40 nations sont en lice pour les phases de qualification. Le premier tour prévu du 20 au 26 septembre, les équipes joueront deux matchs les unes contre les autres. Le vainqueur des deux matchs se qualifiera pour la deuxième tour prévue du 27 novembre au 5 décembre 2023. Notons que l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, et la Zambie, médaillée de bronze, seront exemptées de cette étape de la phase de qualification. Et puis la partie magazine de cette édition, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel AES, la création de cette alliance instituée par le pacte dit du Liptako-Gourmand constitue un changement géopolitique important de la sous-région. Sédic Abba, journaliste et spécialiste des questions sécuritaires, joint au téléphone par Tarnan Foudahamed.
La création de cette alliance des États du Sahel me semble s'inscrire dans une bonne démarche puisqu'elle traduit la volonté de construire une réponse transnationale face à une menace qui est devenue depuis très longtemps transnationale et elle va permettre d'avoir de meilleurs résultats dans la lutte contre le terrorisme.
Selon vous, comment cette alliance doit-elle fonctionner?
La charte prévoit clairement la mise en place des structures de fonctionnement. À mon avis, il s'agira de mettre en place un secrétariat exécutif ou un secrétariat permanent avec le personnel technique qu'il faut pour assurer le fonctionnement, la coordination des activités. En plus du secrétariat pour assurer le fonctionnement, il va falloir créer une instance militaire. Ça peut être un état-major mixte, ça peut être aussi un commandement de liaison où chacune des armées enverrait ses éléments. Et ensuite, il y aura, puisqu'il s'agit d'avoir une stratégie de lutte contre le terrorisme, de partager les renseignements. Mais il faut prendre garde à ce qu'on mettre pas en place une bureaucratie trop lourde.
Au-delà de la lutte contre le terrorisme, cette alliance prévoit à son article 5 de réprimer les rébellions dans les trois pays en cas de menace. Est-ce que c'est possible?
On peut comprendre que l'alliance est une architecture commune de défense et une ambition de solidarité pour lutter contre le terrorisme, mais on comprend moins son objectif soit de lutter contre des préoccupations internes. Et c'est quoi une rébellion armée? Est-ce que par exemple dans le cas de ce que nous avons vécu au Niger en 91, en 2007, et si elle veut être efficace, il vaut mieux qu'elle se concentre sur un agenda qui est celui de la lutte contre le terrorisme et qu'elle laisse de côté les questions intérieures qui peuvent plutôt relever de l'agenda national qui ne concerne pas vraiment les questions de rébellion.
Pensez-vous que cette alliance sera plus efficace que le G5 Sahel?
Il y a de chances qu'elle soit plus efficace que le G5 Sahel parce que une des faiblesses du G5 Sahel, c'est d'avoir adossé son fonctionnement et sa réussite sur l'aide extérieure.
Merci, c'est tout pour ce journal. Au revoir.